Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Ligue 1, votre nouveau rendez-vous sur Audioblog, donc Arte. Vous pourrez donc toutes les semaines écouter l'actualité du football français, plus particulièrement de la Ligue 1, les scores, les analyses match par match. Vous verrez tout ça au sein de cette première émission où nous parlerons de la troisième journée. Donc bonjour Marion, bonjour à tous.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Voilà, donc nous allons commencer par rappeler donc les résultats de cette troisième journée de Ligue 1. Donc avec en ouverture de cette journée, l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2-0 face au Football Club de Lorient, le Dijon Football Club qui s'est imposé 4-2 face à l'Olympique Lyonnais, Caen qui a battu Bastia 2-0, Metz 2-0 également contre Angers, un partout entre Montpellier et Rennes, même score entre Nice et Lille, 2-0 pour Guingamp face à Nancy, Bordeaux a gagné 1-0 contre Nantes dimanche, Saint-Étienne et Toulouse sont restés sur un match nul 0-0 et Monaco a battu 3-1 le Paris Saint-Germain. Donc nous allons donc faire une analyse match par match, n'est-ce pas Marion?
Oui.
Donc à commencer par donc le premier match de la journée, l'Olympique de Marseille qui s'est enfin imposé, on a envie de dire, 2-0 face au Football Club de Lorient qui est en train de faire une entame de championnat catastrophique. Alors Marion, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et donc, première victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue 1.
Bah écoutez, oui, c'est une bonne opération pour eux. Ça peut leur permettre de gagner des points déjà pour pas terminer dernier du départ. C'est vrai que ça peut être important pour eux parce que s'ils terminent dernier du départ, ça va être compliqué de remonter. Après, c'est juste le début, il peut encore tout se passer. Hein.
Évidemment. Donc, on rappelle les buteurs pour ce match. But de Rémi Cabella à la 19e minute. Rémi Cabella qu'on avait un petit peu perdu et que finalement on retrouve. Hein.
Oui.
Voilà, il était en équipe de France, il a eu des choses un petit peu plus compliquées, une perte de niveau, etc. Et on dirait qu'il est en train peut-être de revenir avec l'Olympique de Marseille. Et puis, but à la 70e de Bafétimbi Gomis, son retour en Ligue 1. Il est déjà passé par l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Le voilà maintenant, à l'Olympique de Marseille, Marion.
Oui, bah... Il a fait il a fait trois clubs en Ligue 1. C'est vrai que il est revenu et on espère qu'il va nous montrer beaucoup de spectacles cette année.
Très bien. Donc voilà, quelque chose à rajouter donc pour ce premier match, à part que donc Marseille prend 3 points. Et puis un petit mot quand même sur le Football Club de Lorient. Une entame de saison catastrophique hein, pour les hommes de Sylvain Ripoll. Vraiment, ça se passe très mal pour eux, hein, Marion.
Oui, bah écoutez, on espère qu'ils vont remonter pour eux parce que c'est vrai que sinon ça risque d'être très compliqué. Et donc voilà, on leur souhaite que du bien, donc on espère qu'ils vont remonter parce que là, pour le moment, ça part mal.
Pour l'instant, voilà, c'est une entame de saison catastrophique alors que, bon, bah, personnellement, je ne pensais pas forcément qu'ils allaient nous faire, je ne m'attendais pas à cette entame de saison de la part du Football Club de Lorient.
Oui, bah c'est clair, ouais.
Voilà. Alors, donc maintenant, on passe au deuxième match. Hein. Il s'agissait de Dijon qui recevait l'Olympique Lyonnais sur sa pelouse et qui s'est finalement imposé 4-2. Score de 2-2 à la mi-temps, beaucoup de buts. Hein. On va rappeler les buteurs, mais avant Marion, Dijon qui s'impose. C'était sa première victoire. Hein. Première victoire de Dijon qui s'impose face à l'Olympique Lyonnais, face aux hommes de Bruno Genesio. Est-ce que ça sent bon pour Dijon? Et on imagine que ça sent un peu mauvais pour l'OL de perdre sur ce score-là quand même. Hein.
Ah bah ça c'est clair, c'est vrai que l'OL s'était imposé 3-0 et 2-0. Donc c'est vrai que là, ils ont perdu leur rythme, si on peut dire comme ça. Donc Bruno Genesio va, je pense, devoir faire quelques changements. Donc bah écoutez, c'est vrai que c'est un très très bon match de... Dijon parce que ça va leur permettre de remonter dans le classement parce que vraiment là ils ont fait une entame de saison plutôt bonne.
Alors oui, ils ont quand même eu deux défaites hein, sur les deux premières journées, mais bon là ils arrivent à s'imposer face à l'OL. Est-ce que ça peut leur faire prendre confiance aux hommes du Dijon Football Club?
Ah bah évidemment, l'Olympique Lyonnais était premier avant ce match, donc forcément ils étaient deuxième la saison dernière, donc forcément...
Sensation de battre le leader provisoire, c'est sûr que ça peut les galvaniser pour la suite de la saison.
Ouais, voilà, bah c'est vrai que franchement, je pense que pour le prochain match, ils vont être hyper motivés et ça peut jouer à leur faveur. Ouais.
Alors si on rappelle donc les buteurs quand même rapidement, c'est l'Olympique Lyonnais qui a ouvert le score à la 20e minute par le biais donc de Corentin Tolisso, hein, son premier but de la saison. Et puis égalisation à la 24e sur pénalty de Frédéric Samaritano. Donc pénalty concédé par Nicolas Nkoulou, donc du côté de l'Olympique Lyonnais. On en reparlera hein, de ce geste. Nkoulou avait un bon niveau il y a 2 ans et il l'a dit, son objectif c'est de revenir à son niveau, son top niveau donc qu'il avait il y a 2 ans. Et là, avec ce geste, on en reparlera après, c'est vraiment pas possible. Ensuite, le buteur maison Alexandre Lacazette à la 37e minute a redonné l'avantage à l'OL. Et puis juste avant la mi-temps, la 45e plus 1 minute, c'est de nouveau Dijon qui a égalisé de partout hein, par biais de Julio Tavares. Donc ensuite, en deuxième mi-temps, on sait qu'Alexandre Lacazette est sorti sur blessure à la 45e, remplacé par Mathieu Valbuena. On sait également que Nabil Fekir est sorti pour le dernier quart d'heure sur blessure, remplacé devant, hein, en attaque par Clément Grenier. Bon, voilà. Et donc à la 73e, but de Dylan Bahamboula pour le Dijon Football Club. Et donc, ben, juste avant la fin, à la 88e minute, hein, Pierre Lesmelou, pardon, enfonce le clou pour le Dijon Football Club qui s'impose finalement 4-2. On va quand même revenir tout d'abord sur le geste de Nicolas Nkoulou, les deux pieds en avant décollés qui donnent ce pénalty d'égalisation et qui peut-être a fait sombrer l'OL.
Bah, c'est vrai que c'était un geste complètement imbécile. Il aurait pu le faire bien avant s'il souhaitait vraiment le faire. Et non, il s'est arrangé pour que ce soit dans la surface. Là, franchement, moi...
Est-ce que c'est digne du grand Nkoulou qu'on avait il y a 2 ans?
Bah non, pas du tout. On dirait qu'il l'a fait exprès de le faire dans la surface. En plus, il n'était pas obligé de le faucher comme ça par derrière. Je suis désolée. Bon, quand même, derrière, il y a un gardien. S'il n'y avait peut-être pas eu pénalty, peut-être que...
Peut-être qu'il n'y aurait pas du tout le but sur cette action. Ouais. Après, il y a aussi quand même un problème. On va essayer de passer... bientôt au prochain match, mais il y a quand même un problème aussi collectif sur ces actions, à savoir que Nicolas Nkoulou se retrouve le seul défenseur. Pourquoi Mapouyan Gambiwa n'était plus là? Pourquoi Raphaël n'était plus là? Pourquoi c'était Massiège Ribus oui. N'était plus là aussi. Hein.
Ouais.
Et puis donc après, finalement, Lacazette redonne l'avantage et Lacazette se blesse. Et alors là, c'est inquiétant pour l'Olympique Lyonnais quand même, c'est que lors du Trophée des Champions, Lacazette s'est blessé et ils se sont inclinés lourdement 4-1. Là, contre Dijon promu de Ligue 2, hein, qui monte en Ligue 1, hein, qui avait fait 2 matchs de défaite, Lacazette se blesse et ils perdent 4-2. Est-ce que c'est inquiétant pour l'OL de se dire, mais attendez, quand il n'y a plus Lacazette, c'est défaite assurée. Et en plus, Jean-Michel Aulas n'a pas fait venir d'attaquant supplémentaire. On sait maintenant, le mercato est terminé, il n'a pas fait venir d'attaquant supplémentaire.
Voilà, bah en effet, c'est vrai que... Il aurait même mieux fait de faire venir l'attaquant qui pistait Châteauroux, parce que au moins on aurait eu quelqu'un, lui on sait d'ailleurs, c'est un buteur, hein, Mateta, c'est un buteur, il a mis un triplé contre une autre équipe
en Coupe de la Ligue, ouais.
Et donc, même si c'est quelqu'un qui vient de Châteauroux, qui a pas une expérience
énorme forcément dans le monde professionnel du football,
mais
ça peut toujours servir en remplacement à Alexandre
Lacazette. Voilà, parce que là, du coup, en pointe, pour aller
bah, on a des jeunes, après des réservistes, on a Aldo Kaloulou, on a éventuellement Maxwell Cornet qui peut jouer en pointe,
éventuellement Oussem Aouar,
éventuellement Gaëtan Perrin qui est aussi prometteur, mais est-ce que des joueurs comme ça, ça va pouvoir faire le. Comment dire, est-ce que ça peut marcher pour une équipe qui vise la première place ou tout du moins la deuxième et qui veut essayer de s'imposer en Ligue des Champions?
Non, ça peut pas marcher parce qu'il leur faut un vrai attaquant. Donc moi je pense que là, pour le mercato hivernal, ils ont intérêt à s'occuper que de l'attaquant. Parce que...
Est-ce que défensivement, il n'y a pas aussi un problème? Est-ce que le départ de Samuel Umtiti au FC Barcelone, après on va vraiment passer au match suivant, est-ce que le départ de Samuel Umtiti au FC Barcelone, est-ce que Samuel Umtiti a été remplacé à l'OL?
Bah écoutez, on ne sait toujours pas puisque Emmanuel Mamana, le très prometteur, n'a pas encore pu montrer ses talents forcément puisque Bruno Genesio a fait le choix de ne pas le faire jouer. Donc on va voir hein, contre Bordeaux s'ils vont le faire jouer, mais je pense qu'il a plus intérêt à le faire jouer parce que voilà, après on parle que c'est un problème de langue parce qu'il ne sait pas encore parler français.
Ouais, communiquer avec Mapouyan Genesio, mais bon.
Forcément.
D'accord. Donc on va passer ensuite au prochain match. Donc le Stade Malherbe de Caen qui s'est imposé 2-0 face au Sporting Club de Bastia. Caen qui s'était incliné 2-0 face à l'Olympique Lyonnais qui repart de l'avant et s'impose 2-0 face à Bastia. Est-ce que c'est vraiment une surprise? On avait quand même vu Bastia qui avait su presque arracher le nul face au Paris Saint-Germain lors de la première journée. Est-ce qu'on aurait pu attendre mieux du Sporting Club de Bastia sur ce match?
Alors, Oui, bah oui, toute équipe qui perd peut faire mieux forcément, mais après, c'est vrai que quand s'ils ont réussi à s'imposer 2-0, c'est qu'ils ont dû être dans une bonne forme quand même. On
C'est
sait
sûr.
pas, moi je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais c'est une très bonne opération pour eux d'avoir fait ça parce que du coup ça va vraiment permettre à Caen de remonter dans le classement.
Ah bien, surtout que quand je pense, quand c'est pas imposé sans rien faire sur ce match, on voit il y a eu un carton jaune du côté du Stade Malherbe de Caen, il y en a eu 5 du côté de Bastia. Donc ces statistiques nous montrent bien que Bastia était vraiment acculé en défense sur ce match. Hein.
Ils sont passés à la 6e place maintenant.
6e place, donc c'est vrai qu'ils se rapprochent petit à petit. Enfin, ils sont dans le haut du classement quand même, hein, 6e, c'est pas mal. Ensuite, on passe au prochain match, donc le Football Club de Metz qui s'est imposé 2-0 face à Angers. Alors Metz, qu'on avait vu s'incliner 3-0 au Parc des Princes, c'est sûr que c'était pas facile pour un promu comme ça dès la deuxième journée d'aller affronter le PSG dans son stade. Metz, qu'on avait vu gagner 3-2 face à Lille à la première journée. Donc Metz, on ne sait pas trop quoi dire d'eux parce que ils montrent quand même des bonnes choses en ce début de saison, hein, le Football Club de Metz. Hein.
Oui, bah là actuellement du coup ils sont 7e, c'est plutôt pas mal,
Pour un
mais
promu, c'est vraiment bien, ouais.
bon, ouais.
Et puis, par contre, est-ce qu'on peut s'inquiéter pour Angers? Angers qui, l'année dernière, était dauphin du Paris Saint-Germain lors de la trêve hivernale, pardon, qui était deuxième et qui faisait la surprise de la Ligue 1 l'année dernière. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour Angers qui, là, je sais plus, je sais pas quelle place est.
Angers 18e, hein.
18e Angers, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Trois matchs, trois défaites pour Angers, me semble-t-il, ils ont 0 points. Oui, il me semble bien, oui. Oui, c'est ça. Trois matchs, trois défaites pour Angers. Est-ce que vraiment on peut s'inquiéter pour Angers là?
Bah faut s'inquiéter, oui, il faut s'inquiéter parce que l'année dernière, il me semble que à la 3e journée, ils étaient premiers.
Oui, c'est bien possible. Oui, en tout
Donc
cas, dans tous les cas, deuxième.
dans les premiers, ouais, donc on peut s'inquiéter parce qu'en ce moment, ils sont 18e, donc voilà.
Ouais, il y a vraiment une différence et bon. Voilà, ensuite Montpellier est resté sur un match nul face au Stade Rennais, un partout. Donc on rappelle quand même que c'est Montpellier qui menait 1-0 à la mi-temps et que Rennes a su revenir dans le match. Bah, ces deux équipes quand même, j'ai envie de dire, qui se ressemblent, qui sont assez équilibrées, Montpellier et Rennes. Est-ce que c'est logique d'avoir ce match nul un partout, Marion?
Écoutez, je sais pas trop, c'est vrai que je ne sais pas trop quelle performance ils ont montré. Après, là, du coup, ça les met 12e au classement.
Ouais, c'est pas mal, hein.
Ouais, c'est pas mal.
On est quand même dans la deuxième moitié de classement, mais
On peut
bon.
mieux faire, mais c'est pas mal.
Voilà. Est-ce que cette saison, on va quand même parler un petit peu de Rennes, est-ce que cette saison, l'effet Christian Gourcuff peut faire de Rennes une grande équipe de Ligue 1? Christian Gourcuff, enfin l'effet Christian Gourcuff avec son fils Johan Gourcuff, est-ce que ça peut faire une grande équipe de Ligue 1, cet effet, ce duo de choc, on a envie de dire, est-ce que ça peut faire une grande équipe de Ligue 1 qui va peut-être chercher une place en Europa League?
Écoutez, si Christian Gourcuff réussit à faire revenir Johan Gourcuff à son plus haut niveau, ça peut leur porter vraiment, ça peut vraiment les aider dans le championnat et ça peut vraiment les aider à faire, pourquoi pas, finir dans le podium.
Très bien. Alors ensuite, donc il y avait Nancy-Guingamp. Guingamp s'est imposé 2-0 et on le sait, Guingamp est leader de cette Ligue 1 devant l'AS Monaco. Guingamp, début de saison parfait, 3 matchs. Et sur les 3 matchs, ils ont pris 7 points. Vraiment un début de saison parfait pour l'en avant de Guingamp, qui a su quand même, il faut le rappeler, qui a su donc gagner contre l'Olympique de Marseille. Et qui a su faire match nul contre l'AS Monaco 2-2. Et qui maintenant s'impose 2-0 face à Nancy le promu. Est-ce que Guingamp peut nous surprendre cette saison?
Bah, je pense qu'ils peuvent faire vraiment une bonne saison parce que je sais pas, j'ai un pressentiment, j'ai l'impression que Guingamp, cette année, ils vont faire quelque chose de très bien,
Oui, parce que
de
c'est
très
vrai que l'en avant
bien vendu
Guingamp
surtout, hein.
nous a habitués depuis plusieurs saisons à vraiment des places de classement dans la deuxième moitié de classement peu. Enfin, parfois même pas très loin de la relégation. On n'était pas habitué à une équipe de Guingamp comme ça, qui jouent à fond, qui voilà quoi.
Donc là, est-ce que ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est vrai qu'ils ont quand même frôlé
la relégation en Ligue 2, c'est sûr.
Est-ce que ça les a, est-ce qu'ils se sont dit, oula, faudrait peut-être qu'on se reprenne un peu, et du coup, ils sont allés plus vers l'avant.
Et puis, à la 59e de Moustapha Diallo et la 79e de Thibaut Giresse, hein, donc
et
pour l'en avant.
Et maintenant, ils sont premiers, donc c'est...
C'est encourageant, hein.
Ouais.
On entendait les gens dire, ils vont, l'en avant de Guingamp va prendre en photo le classement à ce moment-là, voilà, ils sont premiers de la Ligue 1.
Voilà, ouais.
C'est vrai que, bon. Ensuite, l'OGC Nice contre Lille, ça a fait un partout également, alors Nice qui a ouvert le score dès la 3e minute. Est-ce qu'il y a un problème du côté de Lille, pardon, au niveau défensif? Prendre un but à la 3e minute, est-ce que c'est pas une erreur? Lille est quand même une grande équipe, me semble-t-il. Enfin, c'est ce qu'on croyait, puisque c'est vrai que depuis leur élimination au barrage contre Kabala, donc une équipe complètement inconnue en France, ils se sont fait éliminer donc dès les barrages de l'Europa League par Kabala. Ça m'a déçu. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une saison de Lille médiocre? Quand on voit que dès la 3e minute, ils se font ouvrir le score, alors certes, à la 27e, ils égalisent, mais est-ce que Lille a un problème cette saison? Est-ce que, je sais pas, pourtant c'est toujours Antonetti leur entraîneur, il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression que cette année, ils se font éliminer par Kabala de l'Europa League.
Alors,
ils prennent un but dès la 3e minute contre Nice, ils se font battre par le Football Club de Metz 3-2 dès la première journée. Il y a des erreurs énormes, il y a deux buts sur pénalty pour Metz, mais ces pénaltys sont valable dès la première journée. On a des erreurs défensives, on a des erreurs de Vincent Enyamba qui est pourtant un excellent gardien. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même?
Moi, je pense que cette année pour Lille, il y a deux scénarios possibles. Soit ils vont continuer à faire, on va dire, n'importe quoi, comme ils ont commencé, hein, faut bien avouer. Soit ils vont se reprendre et terminer plutôt dans les bonnes places du classement.
Ouais, dans les bonnes places. Vincent Cosiello qui ouvre le score pour Nice à la 3e minute, hein, on l'a dit, il est très prometteur ce petit jeune. Hein.
Ouais, c'est vrai que il est vraiment tout jeune, ouais, et c'est un espoir, donc c'est vrai que c'est plutôt bien pour le football de Ligue 1, hein, d'avoir des espoirs comme ça.
Et donc ensuite, en deuxième mi-temps, à partir de la 27e minute de l'égalisation de Lille, il ne s'est plus rien passé dans ce match. On a l'impression que les deux équipes se neutralisaient et que les deux étaient très contentes du point du match nul, en fait.
Voilà, ouais, on dirait qu'ils voulaient pas faire mieux. Mm. On dirait que c'était déjà très bien pour eux. Après, c'est vrai que...
Pourtant, Nice aurait pu aller chercher la victoire chez eux et ils auraient pu prendre seuls les commandes de la Ligue 1 et être leader,
ouais,
hein,
c'est vrai
avec
que...
9 points, donc bon.
Que ça...
Après, Nice a aussi perdu Hatem Ben Arfa. Bon, il y en a qui disent que ça va affaiblir Nice.
Ouais, ça va peut-être les affaiblir.
Il y a Valère Germain aussi qui est reparti à Monaco, hein, son club d'origine. Donc,
alors, Nice a fait un gros coup en attirant Balotelli chez eux. Donc, après, faut qu'ils arrivent à faire...
faire retrouver son top de niveau.
Voilà.
Est-ce que si l'OGC Nice arrive à faire retrouver le top niveau à Balotelli, Nice peut ambitionner la première place de la Ligue 1?
Bah, s'il le retrouve, oui. Faut bien avouer, quand il était à son top niveau, il était...
Très bien. Alors ensuite, on a donc Bordeaux-Nantes. Bordeaux qui s'est imposé 1-0 face au Football Club de Nantes. C'est vraiment une petite victoire chez eux, pourtant.
Ouais, c'est clair, ouais.
Une petite victoire alors qu'ils s'étaient fait écraser par le Toulouse Football Club au Stadium, hein, la journée d'avant. On se rappelle que les hommes de Pascal Duprat ont un petit peu mis la honte à Bordeaux. Est-ce que Bordeaux effectue un bon début de saison? Je ne sais plus exactement à quelle place du classement ils se trouvent, les Girondins de Bordeaux. Mais en tout cas, un petit but à zéro contre le Football Club de Nantes, bon, ça n'a rien d'exceptionnel pour Bordeaux quand même.
Alors,
est-ce que Jocelyn Gourvennec, hein, donc le nouveau coach des Girondins de Bordeaux, est-ce qu'il a vraiment trouvé la bonne technique à Bordeaux là?
Bordeaux sont 8e là pour le moment.
8e, d'accord.
Ouais.
On rappelle qu'ils ont réussi à s'imposer 3-2 face à l'AS Saint-Etienne dès la première journée, mais qu'après ils ont chuté 4-1 face à Toulouse, donc bon. Est-ce que Gourvennec a trouvé la bonne technique? Bon, il y a deux victoires en 3 matchs, pardon. C'est comme l'Olympique Lyonnais, après tout. Mais bon, c'est comme le Paris Saint-Germain, mais bon, quand même.
Oui, bah, on va voir, hein. Écoutez, on espère pour eux qu'ils vont pas rester sur cette dynamique. Après, le prochain match, ils le jouent contre Lyon. On va voir ce que ça va donner. Les deux équipes...
ont 6 points, les deux équipes ont 6 points.
Les deux équipes ont 6 points.
Et les deux équipes ont besoin de points, à mon avis.
Et les deux équipes ont besoin de points. Lyon a besoin de se relancer. Bordeaux a besoin de continuer de se relancer.
Voilà, d'une victoire.
Plus qu'un 0.
Ouais, voilà.
Ça peut vraiment les arranger.
Alors ensuite, on passe à l'avant-dernier match. C'était l'AS Saint-Etienne qui recevait le Toulouse Football Club. 0-0 ce match. 0-0. Personnellement, j'aurais jamais pronostiqué ça. Hein. 0-0 avec le Toulouse Football Club. On sait que Pascal Duprat fait énormément jouer son équipe du TFC. Est-ce que c'est étonnant? Et d'ailleurs, il l'a déclaré, il a fait une déclaration qu'on ne rappellera pas, mais qui a vraiment fait parler de lui, hein. Mais on ne rappellera pas ce que c'était. Pascal Duprat n'était pas content du match de ses hommes, c'est clair, mais n'était pas content de celui des hommes de Christophe Galtier, donc de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que, enfin, moi personnellement, ça m'étonne. Est-ce que vous, ça vous étonne de voir que Toulouse n'est pas capable de mettre un but face à l'AS Saint-Etienne? On sait que l'AS Saint-Etienne est une équipe extrêmement défensive, mais quand même.
Alors, l'AS Saint-Etienne, c'est une équipe extrêmement défensive, oui, en effet. Après, c'est vrai qu'en jouant à la défense, ils peuvent se faire avoir parfois. Sachant que Toulouse était plutôt bien, on les attendait pas forcément comme ça, sachant que la dernière fois, ils ont vraiment frôlé la relégation. On ne s'attendait pas forcément à ça. Après, Saint-Etienne aussi, je pense, aurait pu gagner. Donc, ça a été un match plutôt équilibré. Donc, bon.
Pas facile de désigner un vainqueur finalement. Mais un match de très très bas niveau. Hein. Pas. C'est un peu la honte pour la Ligue 1, ce match.
Ouais.
Et donc, enfin, le dernier match, l'AS Monaco qui a gagné 3-1 face au Paris Saint-Germain. Donc, déjà une défaite hein, pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain serait moins fort que l'année dernière? Est-ce que les autres clubs comme l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais peuvent ambitionner une première place?
Écoutez,
départ de Zlatan Ibrahimovic, départ de Laurent Blanc, bon.
Écoutez, cette année, c'est l'année où un nouveau coach est arrivé, Ibrahimovic est parti. Il faut qu'ils s'habituent à leur coach, hein. On verra ce qu'ils vont donner une fois qu'ils seront habitués. Après, c'est vrai que le PSG nous a pas beaucoup impressionné dans son mercato.
C'est vrai, ouais.
Donc,
on a eu surtout des départs, pas de grande arrivée, bon.
Moi, je pense pas qu'ils aient remplacé Ibrahimovic.
Est-ce que le Paris Saint-Germain fait. Est-ce que le Paris Saint-Germain. Je trouve plus mes mots. Est-ce que le Paris Saint-Germain c'est. J'allais dire dégradé, c'est pas le mot que je voulais dire, mais enfin, c'est. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Est-ce qu'il a perdu du niveau durant ce mercato? Est-ce que c'est plus le Paris Saint-Germain de l'année dernière, quoi? Est-ce que c'est encore le Paris Saint-Germain qui va tout gagner, la Ligue 1, hein, la Coupe de la Ligue? Bon.
Aujourd'hui, s'ils restent tout le temps comme ils sont en ce moment, je pense que ça va être plus compliqué pour eux. Sachant que il y a d'autres équipes qui sont renforcées.
Qui se sont renforcées, ouais. On pense ou du moins qui ont réussi à garder leurs grands joueurs, quoi.
Ouais.
C'est pas le cas du Paris Saint-Germain avec Zlatan Ibrahimovic, hein.
Alors Nice, on peut pas trop dire parce que Hatem Ben Arfa est parti, c'était leur star, et ils ont fait venir Balotelli à la place. On sait pas du coup ce que ça va donner parce que on sait pas si Balotelli va réussir à retrouver son niveau. Donc s'il le retrouve, je pense que ça va faire une sérieuse.
Très bien. Et on a quand même donc l'AS Monaco avait un score dès la 13e minute. Est-ce qu'ils ont pris à froid le Paris Saint-Germain et qu'après ça a été plus facile pour eux d'opérer leur jeu à l'AS Monaco?
Alors,
c'est possible, hein.
Peut-être, ouais, c'est possible. Ça a été quand même une surprise. On s'attendait à voir le PSG
s'imposer ou tout du moins être accroché au match nul, peut-être, mais
voilà. Mais pas perdre 3-1.
Ouais. Est-ce que donc, si on parle un petit peu de l'AS Monaco, on a parlé du PSG, l'AS Monaco. Est-ce que l'AS Monaco, enfin, moi j'ai l'impression que l'AS Monaco est en train de monter en puissance au fur et à mesure des matchs. On les a vus arriver à passer juste face au Fenerbahçe. Par contre, on les a vus après vraiment passer face à Villarreal de manière très correcte même. Sortir Villarreal, une équipe d'Espagne, hein, est-ce qu'elle fait pour la Ligue des Champions? Est-ce que maintenant.
Alors, leur parcours est très irrégulier, c'est vrai que.
Voilà.
Il faudrait qu'ils...
Ils font un match nul à la première journée face à l'En Avant de Guingamp. Bon, c'est le démarrage. Ils s'imposent 3-1 dès la troisième journée face au Paris Saint-Germain. Est-ce que l'AS Monaco n'est pas vraiment en train de monter en puissance sérieusement?
Alors, c'est soit l'AS Monaco qui est en train de monter en puissance, soit le PSG qui est en train de descendre en puissance.
Oui, mais l'AS Monaco qui sort Villarreal quand même. Villarreal, une grande équipe d'Espagne, bon.
Oui, alors...
On peut pas le nier.
Oui, c'est possible qu'ils montent en puissance, hein. Après, est-ce que c'est que le fait qu'ils soient montés en puissance ou est-ce que c'est aussi le fait que sur ce match, le PSG a eu un problème ou alors...
Mais on a vu le PSG dominer pratiquement dans tous les espaces du terrain. Hein.
Oui, bah ouais.
On a vu une défense du PSG pas à la hauteur, une attaque pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'il y avait pour le PSG? Pas grand-chose. On va rappeler les buteurs. Hein. Donc à la 13e minute, Joao Moutinho. À la 45e prise de Fabinho sur penalty. La réduction du score à la 73e par Edinson Cavani. Et puis finalement, donc Edinson Cavani, hein, le pseudo remplaçant de Zlatan Ibrahimovic. Et finalement, Serge Aurier bute contre son camp, 3-1 pour l'AS Monaco. Est-ce que Serge Aurier a vraiment sa place de titulaire dans l'équipe du Paris Saint-Germain?
Écoutez, défenseur, autre que Serge Aurier, je vois pas qui est-ce qu'il pourrait être.
C'est sûr, mais bon.
Donc, je pense qu'il faut quand même laisser sa chance. Un match, ça dit pas tout, hein. Il faut attendre de voir.
On va donc maintenant parler un petit peu du classement de notre Ligue 1. Donc, on l'a dit, l'En Avant de Guingamp est leader avec 7 points, tout comme l'AS Monaco et l'OGC Nice. Suit derrière, donc quatrième, l'Olympique Lyonnais avec 6 points, puis le Paris Saint-Germain et Caen également. On a aussi Metz et Bordeaux qui ont 6 points. Suite, tout de suite derrière, Toulouse avec 5 points, et puis ensuite toute une série d'équipes avec 4 points, Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille, Rennes, Lille et Montpellier. Et puis avec 3 points seulement, Dijon, Bastia et Nantes. Et puis enfin, les équipes avec 0 points, les 3 relégables provisoires pour l'instant. Donc l'Angesco, le SCO d'Angers, le Football Club de Lorient et dernier, l'AS Nancy-Lorraine. Alors si on parle un petit peu du bas de classement, donc on l'a dit, Angers, on en a déjà parlé. Lorient, on en a déjà parlé. Nancy, promu. Le seul promu qui ne réussit pas son entrée en Ligue 1, l'AS Nancy-Lorraine.
Écoutez, c'est vrai que leur premier match, ils ont joué contre l'Olympique Lyonnais qui a gagné 3-0. C'est vrai que ça les a pas aidés. Je pense que ça les a pas du tout mis en confiance du coup.
C'est sûr.
Et du coup, les matchs suivants, ils n'ont pas fait des bons matchs. Donc, peut-être qu'ils vont se rattraper. Hein.
Très bien.
Il faudrait qu'ils gagnent une fois. Et ça les aiderait, je
pense. Si on parle un petit peu quand même du haut de classement, donc on l'a dit, l'En Avant de Guingamp premier, Monaco qui suit à la deuxième place, et puis Nice également à la troisième place. Pour l'instant, donc le podium, c'est Guingamp, Monaco, Nice, et puis juste à la marge du podium, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.
Oui, donc je pense que c'est assez mérité pour
la surprise, c'est l'En Avant de Guingamp, hein, très clairement. Monaco et Nice, on les attendait puissants, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain également.
Ouais, bon. La surprise, c'est vraiment Guingamp, ouais.
Et puis, le Paris Saint-Germain, qui n'est pas leader pour l'instant de Ligue 1. Il y a un an, faut pas croire, Paris Saint-Germain était déjà leader. Et puis, on commençait déjà à dire le PSG a gagné. Ben, est-ce que, enfin, on en a déjà un peu parlé, mais le PSG n'est pas leader pour l'instant de la Ligue 1.
Le PSG n'est pas leader. Et de toute façon, le PSG n'a pas encore gagné le championnat. On vient de commencer, il y a 3 journées, rien n'est joué. Les derniers peuvent encore se retrouver premiers. Donc,
évidemment, la troisième journée, ça veut rien dire.
Voilà, c'est très bien de commencer...
Très fort comme l'En Avant de Guingamp et de faire des surprises. C'est toujours des points qui sont engrangés par la suite.
Mais après, il faut tenir.
Voilà. Et donc, voilà. Alors, nous allons faire un petit point résultat et classement Ligue 2, si vous le voulez bien. Donc, lors de cette... Donc, ce n'était pas la troisième journée, hein, c'était la cinquième journée pour la Ligue 2. On commence à y voir un petit peu plus clair. Bourg a été accroché 2-2 par Niort. Clermont Foot s'est imposé 2-1 face à l'AC Ajaccio. Le Gazélec Ajaccio a fait 1-1 face au RC Strasbourg. Nîmes Olympique a perdu sur son terrain 3-2 contre Amiens. 0-0 entre Orléans et Auxerre. Même score entre le Red Star et le Havre. 1-1 entre Tours et Reims. 1-1 également entre Troyes et Lens. 2-0 pour Valenciennes face au Stade Lavallois. Et enfin, 2-2 entre Sochaux et Brest au sein, à la fin d'un match exceptionnel. Sochaux menait 2-0, 2 buts du Stade Brestois dans le temps additionnel, ce qui leur permet de revenir à 2-2. Juste un petit mot très rapide là-dessus, parce qu'on n'est pas censé parler de Ligue 2. Mais on fait notre petit point quand même. Est-ce que Sochaux a déconné sur ce coup-là? Prendre 2 buts dans le temps additionnel, on mène 2-0, on finit à 2-2, on prend qu'un point au lieu de 3. Il y a un problème du côté de coaching ou du côté de la mobilisation de l'équipe.
Alors, Sochaux, c'est vrai que ils ont commencé fort, là, on dira le classement après.
Oui, en effet. Ouais.
Mais là, pour l'instant, Sochaux sont troisième.
Voilà,
donc,
Sochaux est troisième.
Je ne sais pas, ils étaient peut-être un peu déconcentrés.
Ouais,
mais avant, c'est vrai que s'ils avaient gagné ou au moins fait match nul, ça leur aurait
permis. Ah, ils ont fait match nul.
Oui, s'ils avaient gagné, ça leur aurait permis.
Quand on mène 2-0 à la 90e, on n'a presque pas le droit quand même de se faire égaliser 2-2 à la fin du temps additionnel.
S'ils avaient gagné, ils seraient premiers.
Voilà. Donc on va justement rappeler le classement. Brest est en tête avec 11 points.
Amiens
10 points, voilà. Ensuite, donc on a Sochaux, Strasbourg, le Gazélec, Ajaccio et le Stade de Reims avec 9 points. Allez-y, continuez.
Donc, 7e Valenciennes, ensuite le Havre, 3, Ajaccio. Donc, là, c'est Ajaccio, hein, parce qu'il ne faut pas confondre avec le Gazélec.
Ensuite, Clermont-Foot, donc, qui se trouve avec 7 points. On a Tours et Lens avec 6 points également. Ensuite, on a Auxerre et Orléans avec 5 points. Ensuite,
Le Red Star
avec 3 points seulement. Niort avec 3 points également.
Et enfin, Nîmes, Laval et Bourg-Péronnat qui se trouvent tous les trois à
dans la
deux
zone
points.
De relégation.
À 2 points.
Donc pour l'instant, Nîmes, Laval et Bourg-Péronnat qui sont prêts à descendre. Et pour l'instant, Brest, Amiens et Sochaux prêts à avancer. Bien. Alors maintenant, nous allons donc parler de la 4e journée de Ligue 1. Donc nous vous rappelons qu'il n'y a pas de match ce week-end, hein, trêve internationale. Donc on va quand même dire un petit mot très rapide. Hein, 3-1 pour l'équipe de France face à l'équipe d'Italie. But de Olivier Giroud, but également de... Aidez-moi.
But de...
On a eu Olivier Giroud.
Attendez. But de Kurzawa, il me semble, non?
Oui, voilà, Levin Kurzawa. Et enfin, le dernier buteur, je ne m'en rappelle plus vraiment.
Attendez. On va trouver ça.
Voilà. Donc, dans quelques instants, on va parler donc du calendrier de Ligue 1 de la 4e journée qui se déroulera donc le week-end prochain, hein, le week-end donc, du 10 septembre. Donc, dans quelques instants, on va donner le calendrier. Donc. Alors, est-ce qu'on trouve ce buteur, ce dernier buteur de l'équipe de France face à l'équipe d'Italie?
Alors...
Non, mais sinon, c'est pas grave, hein, mais pour dire, qu'est-ce qu'on trouve? Non.
Martial.
Anthony Martial, voilà, Anthony Martial. Bien, alors, la semaine prochaine, en ouverture, le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Saint-Étienne. Ensuite, le samedi à 17h, l'Olympique Lyonnais reçoit Bordeaux, on l'a dit. Ensuite, à 20h, Bastia, Toulouse, Guingamp, Montpellier, Angers, Dijon, Lorient, Nancy et Lille, Monaco. Le dimanche à 15h, Nantes, Metz. À 17h, Rennes-Caen, le derby donc de la Manche. Et à 20h45, l'OGC Nice reçoit l'Olympique de Marseille. Donc on a deux chocs, le Paris Saint-Germain qui reçoit l'AS Saint-Etienne.
Oui, bah en effet, on verra...
Est-ce que l'AS Saint-Etienne, avec sa stratégie défensive, peut au moins arracher le match nul face au Paris Saint-Germain?
On verra si c'était Monaco qui était dans un grand match ou le PSG qui était dans un mauvais match, ou alors les deux.
Ou une mauvaise dynamique.
Voilà, ou alors les deux. Et donc, ça, on va pouvoir voir, ce que c'était, si c'était la faute du PSG ou alors Monaco qui était vraiment
très bien. Match. D'accord. Et puis, donc, le deuxième choc, l'OGC Nice qui reçoit l'Olympique de Marseille. Donc, l'Olympique de Marseille a besoin de points, on l'a déjà dit. L'OGC Nice, donc, qui, pour l'instant, est à la troisième place, à 7 points. Est-ce que l'OGC Nice peut s'imposer face à l'Olympique de Marseille? Bon, l'Olympique de Marseille s'est un petit peu renforcé, hein, c'est le fin de mercato. On a eu donc un petit peu plus tôt Bassi Timbigomis, on a eu Clinton NG, hein, qui parti de l'Olympique Lyonnais l'année dernière pour Tottenham, qui est de retour en prêt avec option d'achat à l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'Olympique de Marseille, malgré les renforts, peut s'incliner face à l'OGC Nice?
Alors, tout peut arriver. Ils peuvent, oui. C'est vrai que l'OGC Nice, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, maintenant Balotelli, donc on va voir ce que ça donne. On va voir si les titulaires, s'ils jouent déjà. On va voir ce que ça donne, donc, et on va voir si il peut les aider. Donc, moi, je n'ai pas vraiment favori, vu que Marseille, je pense, va bientôt se relancer. Mais, on verra bien. Écoutez, moi, je n'ai pas trop d'idées, là.
D'accord. Et puis l'Olympique Lyonnais qui reçoit les Girondins de Bordeaux, est-ce que c'est l'occasion pour l'OL dans son parc olympique lyonnais de se relancer? Après la défaite face à Dijon.
C'est vrai que c'est au parc OL, on ne sait pas, je crois que Lacazette a toujours joué. Hein.
Alexandre Lacazette devrait être mis, Nabil Fekir sera absent par contre. On ne sait pas si Rachid Ghezal sera de retour, on ne sait pas si Clément Grenier sera présent pour ce match. Il y a beaucoup d'incertains du côté de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jallet sera prêt normalement pour ce match. Mamana, normalement, peut-être fera sa première apparition sous les maillots de l'Olympique Lyonnais. Voilà.
Donc,
mis à part Rachid Ghezal, Clément Grenier et Nabil Fekir, sinon tout le monde devrait être présent.
Ouais, il y a quand même beaucoup de questions hein, pour l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas s'il y aura Rachid Ghezal, on ne sait pas s'il y aura Clément Grenier, il n'y aura pas Nabil Fekir.
Non.
On ne sait pas si Emmanuel Mamana jouera.
Voilà.
Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas beaucoup de choses, du coup. C'est vrai que... on verra bien. C'est vrai que je pense que l'Olympique Lyonnais peut faire quand même quelque chose contre Bordeaux, surtout que c'est chez eux. Donc, bon... quand même.
Très bien. Alors, donc on va passer à la dernière partie de notre émission Parlons Ligue 1, avec donc le top et le flop de Marion, et puis le top et le flop de moi-même, Thomas. Donc on va commencer par votre flop, Marion, sur cette troisième journée de Ligue 1. On rappelle, les flops, ça peut être un score, ça peut être une équipe, ça peut être un entraîneur, ça peut être un joueur, ça peut être un arbitre, ça peut être un président, ça peut tout être. Donc quel est votre flop sur cette troisième journée de Ligue 1, Marion?
Donc moi, mon flop, ça sera le PSG. Parce que, bon, peut-être que l'AS Monaco a fait un très bon match, mais on attendait beaucoup mieux de la part du PSG.
Oui.
Ils ont perdu 3-1 et on attendait un match beaucoup plus serré, voir le PSG gagner. Donc franchement, voilà, mon flop, c'est le PSG.
Très bien. Alors, pour ma part, mon flop, ça va être un match, ça va être... le match Saint-Étienne-Toulouse, vraiment, on a eu un match vraiment catastrophique. C'est vraiment mon flop parce que ce match n'est pas représentatif de la Ligue 1, parce que la Ligue 1, on a beau dire, a quand même un bon niveau. On a quand même des clubs qui sont présents et tous les clubs proposent des choses en Ligue 1. Ce match n'était pas digne de la Ligue 1 qu'on connaît, vraiment indigne même, je devrais dire. On n'est pas habitué à ça avec Toulouse. Pascal Duprat, qui est une équipe qui joue énormément et qui généralement met... gagne, enfin, ou du moins marque des buts dans ces matchs. Et puis, ma foi, Saint-Etienne, c'est vrai que c'est plus une équipe défensive. On a plus l'habitude que la Saint-Etienne ne marque pas de buts. Toulouse, voilà. Mais là, vraiment, les deux équipes n'étaient pas dans un bon match. Et vraiment, c'est une honte pour la Ligue 1, ce match. Parce que, voilà, je veux dire, ça faisait pas plaisir à voir, à commenter, à regarder. Je pense que... personne ne s'est réjoui face à... Enfin, en regardant ce match ou en écoutant ce match, personne ne s'est réjoui, à mon avis. Voilà. Alors, votre top, Marion. Votre top de cette troisième journée.
Donc, moi, mon top, ce sera Dijon. Parce que s'imposer face au Porto, face à l'Olympique Lyonnais, pardon, c'est quand même pas facile. D'autant plus qu'ils viennent de monter en Ligue 1. Donc, moi, c'est mon top. Je trouve que ils ont fait un très bon match. Bon, l'OL n'a pas été super quand même. J'ai hésité aussi pour les flops parce que franchement, se faire remonter comme ça, c'est pas
ce qu'il y a, c'est que déjà quand on mène 1-0 au bout de 20 minutes et que derrière on a Nicolas Nkoulou qui donne ce pénalty, bon voilà.
C'est vrai que voilà, ouais.
Et puis on en a pas parlé, c'est vrai que Nicolas Nkoulou, le
Nicolas
geste.
Nicolas Nkoulou, ouais, ça aurait fait.
Nicolas Nkoulou a pris un carton jaune, hein, alors que à vue d'œil, tout le monde aurait dit Nicolas Nkoulou mérite un carton rouge. Donc ça, faut quand même l'expliquer pour certaines personnes qui ne le savent pas, c'est que la LFP a décidé de plus laisser jouer, de moins sanctionner les joueurs durant cette saison. C'est donc une mesure hein, adoptée par la LFP pour essayer qu'il y ait plus de jeux en Ligue 1. Donc essayer de moins siffler, de plus laisser l'avantage. Et donc, ben, même sur une faute comme ça énorme, du coup, on ne sort que le carton jaune pour moins sanctionner. Bon, est-ce que c'est bien un bien bon,
je ne sais pas,
mais enfin, c'est les nouvelles règles.
Il ne fallait pas faire ça. Quand même, ça aurait pu blesser hein, le joueur. Donc bon, voilà. Mais bon, donc oui, mon top, c'est Dijon. Et Nkoulou, en effet, aurait pu être mon flop.
C'est vrai. Et donc, moi, mon top, eh bien, il va s'agir de l'arbitre, Monsieur Rudy Buquet. Monsieur Rudy Buquet, donc, qui a été élu donc, meilleur arbitre de Ligue 1 la saison dernière, qui a parfaitement géré le match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, hein, très clairement.
Oui.
Il a sifflé un pénalty pour l'AS Monaco, mais il y avait pénalty pour l'AS Monaco. Et donc, Rudy Buquet était vraiment, a été à la hauteur, je trouve, et c'est bien de l'avoir désigné. C'est vrai que... Il y a quelques saisons, on aurait pu désigner Clément Turpart pour un choc comme ça, et ben c'est bien de désigner Rudy Buquet. Je trouve qu'il a été élu meilleur arbitre de Ligue 1, c'est pas pour rien. Je pense que Rudy Buquet a quand même des grosses qualités d'arbitre. Hein. D'ailleurs, Clément Turpart était sélectionné pour l'Euro, il n'a pas fait dans le feu. Peut-être que Rudy Buquet serait allé plus loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment mon top de la journée, parce que quand on a des matchs parfaitement arbitrés comme ça, et parfaitement gérés, où ça ne dégénère pas et où on n'a pas de problème, je veux dire...
C'est vrai que c'est très agréable.
C'est agréable, je veux dire, ça a bien joué. Et puis, le score n'est pas faussé et les équipes ne sont pas...
défavorisées ou favorisées.
Voilà, ne se sentent pas défavorisées, etc. Donc, c'était vraiment très bien. Donc, mon top pour Monsieur Rudy Buquet. Bravo hein, d'avoir arbitré ce match aussi bien. Hein.
Voilà, bravo. Donc, bravo.
Voilà, donc c'est la fin de notre émission Parlons Ligue 1. Donc on se retrouvera dans 2 semaines donc pour faire le débrief de la 4e journée de Ligue 1. On vous a donné le calendrier pardon, tout à l'heure. Donc on se retrouvera donc pour parler de la 4e journée. Peut-être des surprises, peut-être pas. On espère quelques surprises pour pouvoir en parler, débattre, etc. Donc voilà. Donc, on espère que vous avez apprécié cette première émission. Moi, personnellement, je trouve que ça s'est bien passé. Je suis ravie de m'être lancée dans cette aventure et j'espère tenir toute la saison en faisant pour toutes les journées des émissions. Quel est votre avis, Marion, alors, pour cette première?
Oui, bah écoutez, ça m'a beaucoup plu et on vous remercie hein, de nous avoir écoutés. On espère que cette émission vous a plu à vous aussi et que vous allez avoir envie d'écouter la prochaine et les prochaines.
Les prochaines, voilà. Eh bien, écoutez, bonne fin de journée, hein. Et puis, à dans 2 semaines, alors, soyez au rendez-vous. Voilà, merci à vous, c'était Parlons Ligue 1 avec Marion.
Au revoir et merci.